Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'histoire du printemps des étudiants chinois en 1989 à Tiananmen. Il s'agit sans doute de l'événement le plus sensible de l'histoire de la Chine contemporaine, car aujourd'hui encore, dans ce pays, il est interdit d'en parler, interdit de commémorer cet événement. Tiananmen 1989 est le mouvement social chinois le plus important de la pré-révolution culturelle. Si les premiers à braver l'interdit et à demander plus de démocratie ont été les étudiants, ils ont été très vite accompagnés par les travailleurs, les artisans et les intellectuels à Pékin, mais aussi sur l'ensemble du territoire. C'était il y a 28 ans, donc en 1989. Cette année-là, dans plusieurs pays du monde, l'histoire hésite à changer de route. En Europe, le mur de Berlin n'est pas encore tombé, mais ce n'est plus qu'une question de mois. Depuis l'arrivée de Gorbatchev, l'Union soviétique n'est plus vraiment la même. En Chine également, on a espéré des réformes. Au niveau économique, la révolution, en effet, fut fulgurante. Au niveau démocratique, elle fut oubliée. Alors, en 1989, certains veulent rattraper l'histoire. Dès le mois d'avril, ils se retrouvent, manifestent, publient des tribunes, bravent des interdits. Mais l'espoir ne dure que 51 jours. En seconde partie d'émission, après le récit, nous recevrons la sinologue Marie Holzmann, mais également, par téléphone de Hong Kong, Tsai Chongguo, professeur de philosophie, ancien étudiant en lutte en 1989. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Juin 1989, Pékin. Ce matin-là, aux abords de la place Tiananmen, on n'entend plus que les convulsions sporadiques du massacre de la veille qui a mis fin dans le sang aux manifestations des étudiants. Quelques rafales de balles au loin, et puis le grondement du moteur des chars. Peu après-midi, à l'hôtel Beijing, où la plupart des journalistes du monde entier ont trouvé refuge, le caméraman de CNN, Jonathan Sher, tourne. Il filme le départ d'une colonne de chars qui s'engouffre sur l'avenue Chang'an. Pour obtenir un plan d'ensemble, il dézoome. Et là, à gauche du cadre, un homme venu d'on ne sait où apparaît. L'inconnu, chemise blanche et chevelure brune, est au milieu de l'avenue, inflexible. Canon droit devant, le premier tank stoppe sa course. Et puis l'un après l'autre, les tanks s'arrêtent. Face à eux, d'un geste brusque et léger, avec l'un des sacs plastiques qu'il tient dans une main, l'inconnu fait signe au char de rebrousser chemin. Le conducteur du blindé tente bien de le contourner, mais l'homme refuse de quitter l'axe des chenilles. Quelques pas chassés à gauche, puis à droite. Sur le balcon de l'hôtel Beijing, les journalistes sont abasourdis devant cette scène. En bas de l'avenue, la foule applaudit l'audacieux et sursaute à chacun de ses gestes. Devant eux, en effet, un petit homme sans armes tient tête à une colonne de chars. Après quelques secondes d'attente, l'homme monte sur le devant du char. À la hâte, il cherche une ouverture. Il passe le corps d'un côté et de l'autre de la base des canons, puis s'agenouille sur le toit. Rien. La machine gronde, mais aucune âme ne semble s'y cacher. Quand il quitte le char, une tête sort enfin. Quelques mots sont échangés, où la discussion ne dure qu'un instant. L'inconnu semble abasourdi, comme absent au milieu de l'avenue. Prend-il seulement conscience de l'acte fou qu'il vient de commettre ? Soudain, le char sort de sa torpeur et redémarre. Instinctivement, l'homme le dépasse, puis se replace devant le canon. De nouveau, les engins s'arrêtent. Sur l'avenue, un nouvel homme à vélo surgit, et puis deux hommes à pied s'approchent. L'un saisit le bras de l'audacieux, l'autre le pousse vers le côté de l'avenue. L'inconnu sort du champ et devient l'un des absents les plus recherchés de l'histoire. On n'a jamais su quel était le nom, l'âge et l'histoire de cet homme. On ne connaîtra peut-être jamais les instants qui ont suivi ce face-à-face. Mais cette scène, vous l'avez tous en tête, tant elle fait partie des clichés iconiques de cette année 1989. En plus de ce caméraman, ils ont été quatre photoreporters à enregistrer sur pellicule la silhouette de cet homme, face au tank. Depuis cette date, à chaque fois qu'on évoque les événements de Tiananmen, c'est à cette image qu'on pense. Elle a marqué notre imaginaire, comme celui des Chinois en lutte. Tsai Ling, une figure du mouvement qu'on surnommait la passionnaria de Tiananmen, disait en 1997 à la journaliste du Monde Annick Cogent qu'aucune image n'a capturé avec autant d'acuité l'esprit de notre mouvement. Tiananmen, c'était exactement cela. Elle nous représente tous, avec nos mains liées, notre sincérité, notre résolution et notre pacifisme. Ce 5 juin 1989, Chain Ling avait déjà quitté la place. Elle découvre cette image dans une cachette de fortune, non pas à la une d'un journal occidental, mais à la télé, sur une chaîne du pouvoir chinois qu'il utilisait pour prouver la clémence des autorités. Les images ont parfois plusieurs sens, plusieurs vies. Ce 5 juin, cet inconnu était seul sur cette avenue, alors que pendant des semaines, ils ont été des centaines de milliers à se dresser face au pouvoir à Pékin et ailleurs. Devant les objectifs des journalistes, le char a tenté d'éviter l'homme. Oui, mais la veille, dans la nuit du 3 au 4 juin, ils ont été des dizaines à rouler sur les corps de centaines d'autres hommes dont, pour la majorité, on ne connaît ni le nom, ni l'âge, ni l'histoire. Alors, que s'est-il passé avant ce 5 juin 1989 ? Pourquoi encore aujourd'hui le pouvoir chinois refuse-t-il de reconnaître les massacres de Tiananmen ? Tout commence le 15 avril 1989 par l'annonce d'un décès.
À l'étranger encore, mort à Pékin de M. Yao Bang, ancien secrétaire général du Parti communiste chinois de 80 à 87, que l'on voit là en compagnie de M. Mitterrand. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 74 ans, défenseur des réformes économiques. Il avait été écarté du pouvoir à la suite des manifestations étudiantes de la fin de l'année 1986 à Pékin.
Treize ans plus tôt, en 1976, c'était la mort de Mao Tse-tung qui faisait basculer la Chine vers l'inconnu. En quelques mois, les successeurs désignés du grand timonier étaient écartés du pouvoir par ceux qu'on désignait alors comme réformistes, dont Deng Xiaoping. Derrière ce nom, un tournant historique pour la Chine, celui du rejet des dogmes économiques marxistes avec la mise en place des quatre modernisations. En quelques années, l'empire du milieu change de dimension et de philosophie. Chaque année, entre 1978 et 1988, le produit national brut augmente en moyenne de 8%. Un miracle, renversant et bouleversant pour toute une partie de la population. Dans les campagnes, c'est tout l'édifice social qui est modifié. Avec la décollectivisation des terres, beaucoup de paysans n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. En ville, c'est l'inflation à deux chiffres qui fragilise les habitants. Un tiers des ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer. Peu à peu, les disparités augmentent, comme les incertitudes face à l'avenir. Et puis, une modernisation a été oubliée par le pouvoir, la cinquième, celle du système politique. Si Deng Xiaoping fait preuve d'un pragmatisme économique évident, le nouvel homme fort de la Chine reste un dogmatique en matière politique. Dans les hautes sphères du pouvoir, deux tendances s'opposent, les vétérans de la révolution et les libéraux. Parmi eux, Hu Yaobang. Quand le 15 avril 1989, on annonce sa mort, pour une partie de la jeunesse chinoise, c'est un espoir qui s'éteint. Ce jour-là, sur les murs des campus, on voit fleurir des textes, des tribunes en forme d'hommage qui s'accompagnent assez vite d'appels au rassemblement. Des premiers groupes étudiants investissent les rues de Pékin, puis la place Tiananmen. Tiananmen est la plus grande place du pays. Symbole du pouvoir et de l'histoire de la Chine, elle est aussi un lieu où s'inscrit la mémoire estudiantine. En 1919, le 4 mai, c'est ici en effet que des milliers d'étudiants et d'intellectuels y ont manifesté contre les ambitions coloniales du Japon. 70 ans plus tard, comme un réflexe vers cette place que les cortèges funèbres se dirigent et déposent sur le monument des héros du peuple, une banderole blanche en l'honneur de Hu Yaobang, où l'on peut lire « L'esprit de la Chine ». Première pierre du mouvement, première liberté prise face au pouvoir, premier risque. Le lendemain, venu de toutes les universités, les cortèges se forment et prennent le chemin de la place. À chaque arrivée, des applaudissements et des éclats de voix, notamment quand les étudiants en beaux-arts arrivent avec un portrait géant de Hu Yaobang. De l'audace, encore de l'audace, disait Danton. La jeunesse chinoise en est débordante en ce mois d'avril. Elle honore un disgracié et accuse les puissants de corruption. À la veille des funérailles officielles, 200 000 personnes bravent l'interdit de circuler sur la place. Durant toute la nuit, les slogans se marient avec les paroles de l'international. Ils sont assis sur les carreaux de ciment, dos à dos, qu'à le dire, dans l'union. Première nuit de lutte. À 10h, les funérailles commencent. Deux Chines se font face.
Face à face, de part et d'autre des colonnes du Palais du Peuple, deux Chines s'affrontent. À Badeng, celui qui avait limogé Hu Yaobang aura pu lui-même entendre la jeunesse réclamer son départ. Dans l'éloge funèbre, pas un mot de réhabilitation politique comme le demandaient depuis 6 jours les étudiants.
À Pendant plusieurs jours, le gouvernement surveille mais n'agit pas. Certes, les soldats et les policiers repoussent les étudiants trop aventureux. Certains d'entre eux sont arrêtés, mais le pouvoir reste discret. Il faut attendre le 26 avril, deux jours après une manifestation monstre qui a réuni près d'un demi-million de personnes, pour que le gouvernement sorte de sa torpeur. Ce jour-là, le quotidien du peuple publie un éditorial reprenant les grandes lignes d'un discours de Deng Xiaoping dans lequel il qualifie les manifestants d'ennemis du parti. Qu'importe, après 10 jours de mobilisation, les étudiants n'ont peur ni de lui, ni de l'armée. Et Tiananmen se remplit de nouveau. Ainsi, jour après jour, la révolte se déploie, comme le raconte le journaliste français Léon Thimault pour France Inter.
J'ai vu tout à l'heure cette scène inouïe au bord du périphérique dans le quartier des facs. Des centaines de gens descendaient de leurs vélos et tendaient l'oreille pour écouter au-dessus des bruits des camions des étudiants de l'école normale leur expliquer le sens de leur manif de la veille. Par ailleurs, les universités de Pékin ont toutes voté pour demain la grève illimitée. Une grève qui, quoique inscrite dans la Constitution, est réprimée en pratique. Enfin, à cette même école normale, j'ai vu un poster caricaturant irrespectueusement le Premier ministre Li Peng en cochon et l'agence Chine Nouvelle en chien paralytique véhiculant la voix de son maître. Un geste d'une audace inouïe qui eût été impensable fût-ce il y a une semaine.
Dans les universités comme sur la place Tiananmen, les étudiants mettent en place des ateliers d'imprimerie éphémères. Certains découvrent l'encre au bout des doigts, d'autres passent d'une université à l'autre avec des micros. Ils lisent les comptes rendus des assemblées, les articles de journaux éphémères, et ils diffusent les enregistrements dans d'autres lieux. Informer, débattre, écrire, c'est aussi cela, la démocratie. Au début du mois de mai, ce sont les professionnels de l'information, journalistes du monde entier, qui s'aventurent dans les amphithéâtres des universités pour collecter les paroles. Ainsi, en France, on découvre les espoirs de cette jeune fille.
Je crois que les étudiants chinois, maintenant, se réveillent. C'est aussi la première fois que les étudiants n'osent se révolter contre la corruption publiquement.
Est-ce que ça veut dire que les étudiants se sentent très forts en ce moment en Chine?
Pas forcément. Ils croient qu'ils ont le droit d'exprimer leurs idées au gouvernement et au public.
Sous la plume des correspondants, on découvre le profil de ces jeunes apprentis de la démocratie. Comme dans chaque mouvement, certains sortent du lot. Parmi eux, Wang Dan. Il a la mèche brune, des lunettes qui le vieillissent un peu, il n'a pourtant que 20 ans. Jeune, il n'a pas le défaut de la fougue. Face aux journalistes étrangers, il évite les pièges, reste calme, appelle à l'ouverture des discussions. Chai Ling, elle, est passionnée, brillante. C'est une jeune femme de 23 ans que les journalistes qualifient vite de passionnariat chinoise, tant sa voix porte la passion et l'énergie d'un espoir naissant. Au début du mois de mai, après 3 semaines de mobilisation, chaque camp joue la montre. Mais les étudiants ont un avantage qu'ils comptent bien utiliser. Hasard du calendrier, le 15 mai, après 30 ans de brouille entre l'URSS et la Chine, Pékin doit recevoir en grande pompe Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et de la glasnost. 2 jours avant son arrivée, les étudiants décident d'occuper la place Tiananmen de façon permanente, jour et nuit. Une centaine d'entre eux se mettent en grève de la faim. Une action qu'ils justifient dans ce manifeste.
Notre pays se trouve à un moment crucial. Les prix augmentent à la vitesse de la lumière. Les mandarins affairistes trafiquent sans vergogne. L'arbitraire du pouvoir pend comme une épée au-dessus de nos têtes. La corruption mine l'édifice de l'État. Des flots d'intellectuels franchissent les mers, la paix sociale est menacée. En cet instant de vie ou de mort pour la patrie, écoutez, compatriotes, notre cri déchirant. Cette patrie est notre patrie. Ce peuple, notre peuple. Ce gouvernement, notre gouvernement. Qui criera si nous ne crions pas? Qui agira si nous n'agissons pas?
Le lendemain, 3000 jeunes gens arrêtent de s'alimenter. Et le 15 mai, sous le regard des centaines de correspondants étrangers venus pour l'occasion, Mikhail Gorbatchev atterrit en Chine. Mais le pouvoir est contraint d'annuler la visite de Tiananmen et pour cause. La place est envahie par des centaines de milliers de Pékinois. Parmi eux, ce manifestant.
Les étudiants vont la démocratie, mais ils vont faire des conversations avec le Premier ministre Li Peng, mais ils refusent de les rencontrer.
Ils font la grève de la faim et ils veulent rencontrer le Premier ministre.
Oui.
Est-ce qu'ils ont peur de la police?
Non, ils n'ont pas peur. Les étudiants, ils veulent la démocratie. Ils n'ont pas peur.
Ils n'ont pas peur de la police?
Oui, oui, pas peur. Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout.
Deux jours plus tard, la foule est encore plus dense. Un mois après le début du mouvement, 1 million de cœurs battent à l'unisson sur la place de Tiananmen. Dès le matin, l'avenue Chang'an est noire de monde. Dans les cortèges, on trouve des ouvriers sidérurgistes, des postiers, des électriciens, des paysans. Sur la place, les grévistes de la faim entendent les clameurs de la foule. Sur les images de reportage, on voit souvent des groupes de mères en larmes et inquiètes qui viennent embrasser leur enfant pris dans le tourbillon d'une révolution dont personne ne connaît la fin. En fin de journée, les dirigeants situés sur les hauteurs du Palais du Peuple peuvent apercevoir sur le monument des héros du peuple une gigantesque banderole rouge où l'on peut lire ces mots « Xi Jinping démission, laisse le peuple prendre la présidence ». Le lendemain, l'histoire bascule. Le 18 mai, en fin de matinée, le Premier ministre Li Peng accepte de recevoir les représentants étudiants dans une salle du Palais du Peuple devant les caméras de la télé. Parmi les étudiants, il y a un jeune homme de 21 ans, Wang Kaixi, étudiant de l'école normale supérieure de Pékin. Au début du mouvement, il était l'un des porte-parole. Il est depuis 5 jours l'un des grévistes de la faim. Plusieurs fois hospitalisé, il a décidé de venir rencontrer le Premier ministre en pyjama. Affaibli, il garde pourtant l'esprit vif. Maniant autant l'image que les mots, Wang Kaixi répond sans retenue aux menaces à peine voilées de Li Peng, le Premier ministre.
Deux questions préoccupent les étudiants. Nous les comprenons. Mais je refuse d'en parler aujourd'hui. Polémiquer là-dessus ici serait hors de propos et déraisonnable.
Ce n'est pas nous qui polémiquons. Je ne devrais pas avoir à répéter ce que j'ai dit au début de la réunion. Mais vous ne comprenez rien. Il ne s'agit pas de nous convaincre, nous. Il s'agit de convaincre les étudiants de quitter la place. Il faut accepter leurs conditions. Si un seul des grévistes de la faim choisit de rester là-bas, nous ne pouvons garantir que des milliers d'autres partiront.
En quelques mots, Wang Kaixi déshonore le Premier ministre. Cette humiliation télévisée a-t-elle accéléré l'histoire? Sans doute pas. Car le mouvement de Tiananmen a ébranlé jusqu'à l'équilibre du régime. Au sein du comité permanent du bureau politique, en effet, deux camps se font face. L'un est favorable à un retour à l'ordre rapide, par la force. L'autre souhaite la recherche d'une solution pacifique. La veille de la rencontre, Deng Xiaoping, chef suprême de la Chine, avait déjà tranché. Face à l'anarchie, il prône l'instauration de la loi martiale. Malmené et critiqué, le chef du parti communiste chinois, Cao Xiang, favorable à la négociation, refuse de devenir le chef du parti communiste qui aura mobilisé les troupes pour tirer sur les étudiants, comme il le racontera dans ses mémoires. Après une journée de réflexion, à la surprise générale, il décide de se rendre sur la place Tiananmen. Et c'est ainsi que le 19 mai, vers 4h du matin, le chef du parti communiste rencontre les grévistes de la faim. Le visage fermé, la voix hésitante, il cherche ses mots, et puis il se lance. Nous sommes venus trop tard, pardon, pardon, dit-il. Pendant de longues minutes, à l'aide d'un mégaphone, il reconnaît les problèmes évoqués par le mouvement, mais demande de la patience. Et puis il implore les étudiants de ne pas sacrifier leur vie. Vous en êtes à 5 ou 6 jours de jeûne, vous ne pouvez pas, on ne peut pas laisser cela continuer de cette façon, dit-il. Dans la journée, l'association autonome des étudiants décide de suspendre la grève de la faim. Malgré tout, quelques heures plus tard, Li Peng, favorable lui aussi à la force, prend la parole à la télé et annonce l'instauration de la loi martiale. Alors, la mécanique du massacre se met en place.
Les yeux ont tout vu et tout subi, que même les dieux ont perdu de leur magie. Quand les mots ne vous répondent plus, on courbe le dos. Un jour le bout de la rue vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras. Seul face à soi-même, on se voit faire le pas de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos guerres quotidiennes valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Quand les gestes fléchissent sous le plus fort, qu'il ne vous reste plus qu'à se rendre d'accord. Quand plus rien n'est à perdre ou à prendre, ou ne vous retient, un jour la fin des méandres vous mène là, à Tiananmen, à pas baisser les bras. Seul face à soi-même, on se voit faire le pas de donner ses chaînes, parce qu'on n'a plus que ça. Peut-être que Tiananmen est plus près que ce qu'on croit, que nos petits combats valent aussi la peine, mais on ne les voit pas. Parce qu'on a encore ça dans les veines, ou pas d'autre choix. Un jour le destin vous emmène à Tiananmen.
Pékin, cité du silence. La capitale chinoise vit depuis ce matin repliée sur elle-même. Les informations ne passent plus guère. Les autorités chinoises, en effet, ont décrété la loi martiale. Ulysse Gosset, notre envoyé spécial, vient à l'instant de nous faire parvenir cette réaction d'un étudiant français qui se trouve, place Tiananmen, à Pékin. Pour l'instant, là-bas, tout paraît calme.
Les menaces ne leur font pas peur. Au contraire, ils attendent l'armée. Ils ne veulent absolument pas se battre contre l'armée. Ils veulent établir un dialogue avec eux, ils veulent essayer de leur faire comprendre quel est le but de leur mouvement.
Vous pensez que les étudiants iront jusqu'au bout ?
Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, ils ne céderont pas un pouce de terrain, rien du tout, et tant qu'il n'y aura pas un dialogue entre le gouvernement et les étudiants.
L'annonce de l'instauration de la loi martiale n'éteint pas le printemps des étudiants. Après 35 jours de lutte, l'espoir est trop grand pour abandonner. Et la peur n'a pas sa place à Tiananmen. Le 20 mai, les 27e et 38e régiments se positionnent mais n'arrivent pas à atteindre le site. La foule encercle, bloque et puis interpelle les militaires. Munis d'eau et de nourriture, ils discutent, ils expliquent aux soldats les raisons de la mobilisation. Le 24 mai, l'armée rebrousse chemin. Sur la place Tiananmen et dans les quartiers de la ville, le temps semble comme suspendu. La fatigue et l'inquiétude désorganisent un peu le mouvement. Dans les journaux, comme dans les discussions des étudiants, le doute s'installe. Serait-ce la fin ? Non, la fougue revient. Le 29 mai, une statue fait son apparition sur la place. Haute de 10 mètres, faite de polystyrène et de plâtre, elle représente une femme, le visage fin, les yeux bridés. Elle porte dans ses deux mains une torche. On la nomme déesse de la démocratie, cousine éloignée de la statue de la liberté. L'imagination des étudiants des Beaux-Arts redonne du souffle aux manifestants. Et de nouveau, des cortèges arrivent, des slogans se font entendre. Pourtant, le pouvoir n'a pas abandonné sa volonté de mettre fin au mouvement. Le 1er juin, des rumeurs annoncent l'arrivée, le stationnement de régiments d'élite. Durant la nuit, des militaires en civil tentent une percée sur la place, mais une nouvelle fois, ils sont repoussés par la population. Le 2 juin, sur la place, les étudiants arrêtent de nouveau de s'alimenter et publient un manifeste qui se conclut par ces mots.
Nous n'avons pas d'ennemis. N'empoisonnez pas notre sagesse et la démocratisation de la Chine par la haine et la violence. Nous ne cherchons pas la mort. Nous sommes en quête de la vraie vie.
Le lendemain, les indices d'une invasion se font plus nombreux. Alors, en quelques heures, le centre de Pékin plonge dans une situation insurrectionnelle. Ici, des barricades pour stopper toute approche. Là, des bus postés au milieu de la route. En fin de journée, les chemises en sang, des manifestants à bout de souffle annoncent qu'à Mouchoudi, un quartier de Pékin, les soldats auraient tiré. Première parole, premier visage apeuré. Et puis, au loin, on entend s'approcher des craquements sourds de tirs de fusil et le crépitement sec de mitraillettes. Au loin, leurs casques reflètent la lumière des néons, des tricycles transportant des corps ensanglantés des devances. À mesure que les soldats progressent, le peuple des barricades se veut plus dense et hurlant Toufei, assassin, assassin. Ces mots accompagnent les courageux qui tentent de s'opposer à eux. Aux abords de la place Tiananmen, l'assaut débute peu après minuit. D'est ou d'ouest, des centaines de camions débarquent. De chaque côté de la place, les soldats se mettent en position et s'avancent vers le centre. Des intellectuels tentent de discuter et de trouver une évacuation pacifique, mais rien n'y fait. Vers 4 heures du matin, toutes les lumières s'éteignent. Un silence, et puis l'assaut. Les balles déchirent le voile des fumées des lacrymogènes, les gens tous crient, puis meurent, adossés aux marches du palais du peuple. Ils ont 20 ans, à peine plus. Certains ont un bandeau rouge autour du front, d'autres ont leur carte d'étudiant autour du cou. Ils sont morts, assassinés ce 4 juin, à quelques mètres du monument des héros du peuple. Après le sifflement des balles, c'est le grondement des chars qui annonce le dernier acte du massacre. Bloqués de toutes parts, des dizaines d'étudiants périssent sous les chenilles des blindés. Après l'extinction des dernières vies, les soldats mettent le feu aux tentes, détruisent les banderoles et les affiches, ainsi que la statue de la déesse de la démocratie. Oui, tout doit disparaître. Les vestiges de la lutte, ainsi que les corps, emmenés, on ne sait où. Aux abords de Tiananmen, désormais aux mains du pouvoir, les combats se poursuivent. Vers 6 heures du matin, au carrefour Liubuku, à quelques mètres du siège du parti, trois chars prennent en chasse un groupe de manifestants. Ils lancent des lacrymogènes et foncent sur la foule. Après leur passage, sur le sol, on découvre des dizaines de corps entremêlés à la ferraille de vélo. Ce sont les autres images de Tiananmen, celles du 4 juin, celles de corps détruits, mutilés par les tanks, qu'on verra dans quelques-uns de nos journaux, mais que notre mémoire a préféré éloigner. Ce 4 juin, Chai Ling a pu s'en sortir, mais depuis cette nuit hante ses souvenirs, à jamais probablement.
Je suis encore vivante. Et c'est mon devoir de dire la vérité à tous mes compatriotes chinois. Le temps était venu pour nous de mourir pour notre pays. Il y avait cet étudiant qui s'appelait Wang Li. Il avait seulement 15 ans. Il a écrit ses derniers vœux. J'ai oublié les mots exacts qu'il a écrits. Mais je me souviens qu'il a dit « La vie est étrange. La différence entre la vie et la mort, c'est une fraction de seconde. Si vous voyez un insecte ramper vers vous et que vous pensez le tuer, l'insecte va cesser immédiatement de ramper vers vous. Il n'avait que 15 ans. Et déjà, il pensait à la mort. Peuple de la République de Chine, vous ne devez pas oublier ces enfants qui se sont battus pour vous. Les chars nous ont chargés et ont tiré des gaz lacrymogènes sur les étudiants. Et les chars nous ont écrasés. Ils ont roulé sur les têtes et les jambes des étudiants. Aucun de nos camarades de classe n'avait un corps intact.
Après le massacre, le gouvernement poursuit la répression par les armes, mais aussi par le droit. Chai Ling était parmi les 21 personnes de mouvement les plus recherchées par le gouvernement. Wang Dang, lui, était tout en haut de la liste. Début juillet, il est arrêté et jeté en prison pendant presque 5 ans. D'autres ont plus de chance. Chai Ling, comme Wer Kachi, arrive à quitter le pays. Depuis ces jours de juin 1989, la répression ne s'est jamais relâchée. En juillet 2017, on apprenait la mort en captivité du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, Professeur à l'université, il s'était mis en grève de la faim avec les étudiants de Tiananmen. Militant des droits de l'homme, il avait été arrêté à la suite d'un manifeste critique contre le régime. En 2002, il avait écrit un poème intitulé « Le 4 juin, un tombeau » où il disait « Si dans l'oubli et la terreur, ce jour-là a été enterré, dans la mémoire et le courage, il vit éternellement. C'est une pierre immortelle et les pierres peuvent crier. »
Descendants of a hundred flowers, and their fight it did begin. The aging Mandarin, and they fought with an extraordinary power. Everyone was smiling, their hearts were warm.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le printemps de Pékin et les massacres de la place Tiananmen en 1989. Et notre invitée, Marie Holzmann, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue et aussi professeur de chinois. J'ai appris que le X se prononçait ce et que notre autre invité qui nous attend à Hong Kong et qui faisait partie des étudiants qui se sont soulevés, lui s'appelle Tsai Chongguo. Hein, ça s'écrit C-A-I, mais parfait. Ça se dit Tsai Chongguo. Il nous attend à Hong Kong. Nous le prendrons au téléphone dans quelques minutes. Marie Holzmann, avant de revenir sur le printemps 89, est-ce que vous pouvez nous peindre en quelques mots, hein, les 10 dernières années, les années de l'après-Mao, qui est mort en 1976, quel est le nouveau visage de la Chine? Qu'est-ce qui a changé avec Deng Xiaoping?
Oui, vous avez raison de parler des 10 années qui précèdent, parce que ce sont les années déterminantes. À partir de 1978-79, a émergé un premier printemps de Pékin qui est complètement oublié. Il y avait là, à l'époque, quelques dizaines de militants qui ont demandé la démocratie, et c'est à ce moment-là que Wei Jingsheng a parlé de cette fameuse cinquième modernisation, la démocratie. Ce mouvement a été réprimé très rapidement. Au bout de quelques mois, une vingtaine de ces militants précoces, disons, ont été mis en prison. Wei Jingsheng, en tout, aura fait 19 ans de prison pour ce fameux texte sur la cinquième démocratie. Et ensuite, bizarrement, malgré cette répression, on a laissé un peu de place, non pas à la démocratie, mais disons à l'ouverture des esprits. Et pendant ces 10 années, on a pu assister à toutes sortes de discussions sur presque tous les sujets possibles. Les minorités ethniques, la traduction des ouvrages un petit peu sensibles, comme par exemple Michel Foucault a été traduit en chinois. Ça a provoqué une véritable bombe parmi les étudiants chinois qui ont vu une autre façon de penser la répression, l'incarcération,
surveiller,
etc.
Punir. J'imagine, surveiller et punir. Somme de Foucault.
Voilà. Mais beaucoup d'autres livres qui étaient interdits. Les Chinois en étaient restés à Victor Hugo, Émile Zola et Maupassant. Donc ils avaient beaucoup, beaucoup à rattraper. Et pendant ces 10 années, ils ont tout lu, hein, on peut dire, d'une certaine façon. Et parce qu'il y a eu cette extraordinaire effervescence intellectuelle, cette effervescence économique aussi, Deng Xiaoping a ouvert les canaux de l'enrichissement. Donc petit à petit, les paysans se sont remis au travail à leur compte. Du coup, les récoltes ont été beaucoup plus belles. Les hommes d'affaires ont commencé tout doucement à envisager de faire du business. Et lorsqu'on arrive en 1989, c'est le résultat de toute cette réflexion qui fait que on demande encore plus.
On ne
pouvait pas demander avant.
On a ouvert la soupape, quoi.
On a ouvert la soupape, et comme la vie matérielle s'est un peu améliorée, lorsque moi j'étais étudiante en Chine en 1975, hein, je suis arrivée, personne n'avait de réfrigérateur ou de machine à laver. En 1989, c'était impensable, tout le monde en avait. Donc, ces deux choses, c'est très important, parce que ça libère énormément de temps. Ouais. On ne fait plus la queue au magasin pendant des heures, on ne passe pas 2 heures par jour à nettoyer, laver, sécher, etc. Du coup, on pense. Et ces 10 années ont été les années qui ont été réellement les plus fertiles pour la pensée en Chine.
Et pendant ce temps, il se passe en Union soviétique, hein, qui existe encore, le phénomène inverse avec Mikhail Gorbatchev, c'est-à-dire qu'on se lance dans des réformes politique, mais on ne change pas l'économie planifiée.
Voilà. C'est choix inverse. Grande différence. Voilà. C'est la grande différence.
Et je vous parle de Gorbatchev, l'homme de la perestroïka, qui renoue avec la Chine après 30 ans de brouille, et il arrive au moment où les étudiants se soulèvent. Est-ce que la grève de la faim 2 jours avant cette visite, est-ce que la visite de Mikhail Gorbatchev est une étincelle qui fait basculer le mouvement ou pas?
Non, je dirais que c'est tout un ensemble. Ce qui a certainement fait basculer le mouvement, ce sont les mots d'ordre de Gorbatchev. Transparence et ouverture. Ça, ces mots d'ordre, ils ont été très très bien entendus. Aussi, bizarrement, 1789-1989, nous en France, on parlait du bicentenaire de la Révolution française. Et les étudiants chinois se sont engouffrés dans les idéaux de la Révolution française. En Chine, en 1949, donc, il n'y a pas eu de véritable révolution. On a quitté un système plus ou moins impérial et on a mis à sa tête un nouvel empire rouge.
Donc, et on chantait la Marseillaise en chinois.
On chantait la Marseillaise en chinois, oui. Donc, les Chinois sont conscients du fait que notre révolution a mis fin à un système royaliste et dictatorial, disons d'une certaine façon, mais qu'en Chine, non. Donc, il y a toutes ces influences diverses qui se croisent. Gorbatchev, sa visite, c'est un élément important pour Deng Xiaoping, c'est-à-dire que la gifle qu'il subit en n'étant pas autorisé, en quelque sorte, à montrer sa belle place Tiananmen à Gorbatchev, pour Deng Xiaoping, c'est absolument insupportable.
Eric Honecker avait connu le même problème en recevant Gorbatchev peu avant la chute du mur de Berlin.
Voilà, et on dit qu'Eric Honecker n'a pas tiré sur les manifestants à cause de Tiananmen quelques mois plus tard.
Bien, alors on va maintenant entrer en communication à Hong Kong avec Tsai Chongguo. Bonjour, vous m'entendez bien ?
Bonjour, oui, je vous entends.
Parfait, merci d'être avec nous. Donc je le redis aux auditeurs, vous étiez étudiant lors des événements que nous avons racontés à Pékin. Vous, pendant les premières journées, vous êtes à Wuhan, donc en province. Comment se déroulent les événements en province ? Quel est l'écho en province des événements de Pékin ?
Ah, c'est 89, là, c'est l'événement... C'était au début, c'était déjà au niveau national. La mort de Hu Yaobang provoquait la manifestation au même temps. À Pékin, à Shanghai, à Wuhan, pratiquement dans toutes les villes, grandes villes. Donc ce n'est pas à la suite de manifestations étudiantes à Pékin, c'est absolument au même temps.
C'est un mouvement national.
Parce que tous les jeunes respectent Hu Yaobang et puis on comptait sur lui. Parce que à l'époque, tout le monde parlait de réforme, mort, Deng Xiaoping est vieux, Zhao Ziyang était désabusé et puis fatigué. Il n'y a que Hu Yaobang, on peut compter, c'est le seul réformateur.
Alors, au lendemain de l'établissement de la loi martiale, vous décidez de rejoindre Pékin. Vous y arrivez le 19 mai 1989. Quelle est la situation sur la place Tiananmen? À ce moment-là, au moment où vous arrivez, quel est votre souvenir de la situation?
Ah, c'était vraiment inoubliable. D'abord, cet enthousiasme des étudiants et leur détermination. Et puis, tout le monde n'a pas peur. On a vraiment déterminé et colère contre la loi martiale, contre le premier ministre Li Peng et contre Deng Xiaoping lui-même. À la veille, on pensait que Deng Xiaoping était réformateur. On a compté quand même sur lui. Il a été tombé par les autres dirigeants. Mais à partir de ce jour-là, on a commencé vraiment à viser sur Deng Xiaoping. Ouais, c'est que, et puis l'autre chose vraiment impressionnante, c'est la mobilisation générale de toute population. Le Pékinois, j'ai vu tous les vieux Pékinois appellent leurs voisins, descendez-vous, on va au place Tiananmen, on va bloquer la route parce que le char de l'armée vont écraser nos enfants. Voilà.
Mais vous avez...
Tous les Pékinois sont descendus dans la rue résister le char et le camion militaire.
Vous saviez évidemment que c'était dangereux. Mais la peur n'existait pas. Vous étiez d'abord et avant tout motivé par un idéal démocratique.
C'est que, pas comme aujourd'hui. À l'époque, on croyait pas que l'armée osait tirer sur la population. Après 49, sous le Mao, pratiquement tous les jours, l'armée de libération du peuple, c'est une armée du peuple, aimée par le peuple. On croyait ça, donc on n'avait pas peur parce que on croyait pas l'armée oser tirer sur la population, sur nous.
Marie Holzmann, évoquons peut-être les tensions au sein de l'appareil politique. Hein, on l'a dit et Tsai Chongguo l'a confirmé. La loi martiale n'était pas soutenue par l'ensemble de l'appareil politique.
Non. Il y a même eu des discussions assez vives et aujourd'hui des historiens chinois le prouvent que peut-être qu'il y aurait pu y avoir une ouverture, peut-être qu'il y aurait pu avoir la mise en place d'un système plus ou moins démocratique, au moins au sein du parti, et c'est la tendance dure qui a gagné. Donc au moins on sait que cette hésitation a été présente. Autrement dit, ce qui s'est fait en URSS, où on a laissé tomber le Parti communiste soviétique, aurait pu se produire en Chine.
On est passé à deux doigts d'un basculement historique.
Peut-être passé à deux doigts d'un basculement historique.
Alors finalement, c'est dans la nuit du 3 et du 4 juin que l'armée intervient et met fin au mouvement avec ces tristement célèbres massacres de la place Tiananmen. Dans votre livre, Tsai Chongguo, vous écrivez des pages très émouvantes sur cette nuit, forcément. Racontez-nous.
Celui-là, je suis sorti de Beida, de l'université de Beigang. C'était dans la, sur le Tang'an, il y avait tellement de camions, bus, étaient brûlés, et soldats avec le fusil à la main. Et puis, il y a Béguinois qui résistait, le résultat tiré sur eux. Donc, c'était vraiment la guerre, quoi, une bataille. J'ai décidé d'aller à la place pour essayer de convaincre les étudiants de quitter la place. Tous les étudiants chinois à la place étaient même pensés que la répression, c'est quoi? La répression, c'est la police, frapper les étudiants, frapper avec tirer des galons de l'eau, on n'avait pas peur. Donc j'ai voulu de leur dire, la répression, c'est pas ça. La répression, c'est l'armée arrive là, avec le tank, avec le char, il tirait le ballon. Pâle, réel. Ce jour-là, la nuit, c'est terrible, c'est vraiment l'enfer. La plupart, pratiquement tous les étudiants ont réussi d'évacuer de place Tiananmen. Quelque chose de plus triste, en fait, c'est le lendemain, c'est le matin.
J'allais vous le dire, le matin, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous dites, c'est fini, on n'aura pas la démocratie, le mouvement est écrasé, il y a une sorte de dépression, qu'est-ce que vous ressentez?
À l'époque, on a passé une nuit, toute la nuit, on a vu la mort, le tiré, surtout étudiants, tellement d'étudiants morts. C'est le plus terrible, c'est que l'imagination. On imaginait qu'il y aura peut-être dizaines, des milliers d'étudiants tués. Et la seule pensée, c'est comment on peut éviter ce massacre. C'est vraiment, on n'a pas pensé la victoire de la démocratie, la liberté, on n'a pas pensé plus loin, sur le moment, sur le 4 juin, 5, c'est sur la mort.
Bien sûr, je comprends. Marie Holzmann, que s'est-il passé dans les semaines qui ont suivi cette nuit du 3 au 4 juin? Bon, j'imagine que beaucoup de militants ont été jugés, certains ont été condamnés à mort.
Dans la nuit, enfin, ce qui a suivi cette terrible nuit, c'est effectivement un mouvement de répression massif, national. Partout, on a affiché les noms de ces 21 étudiants qui étaient les plus recherchés. Tsai Chongguo, peu de temps après, s'est enfui vers Hong Kong. Chai Ling a mis un an à s'échapper de Chine. Wang Dan a été rapidement arrêté, mis en prison. Wu Ruikai a réussi à fuir aussi. Donc, ça a été vraiment une fuite éperdue. Les arrestations ont été massives. On pense probablement des dizaines de milliers d'arrestations et des condamnations ont pu aller jusqu'à la condamnation à vie. Il y a trois manifestants qui ont été extraordinairement audacieux, qui avaient jeté des œufs remplis d'encre sur le portrait de Mao sur la place Tiananmen. L'un d'eux a été condamné à vie. Finalement, il aurait été libéré avant, mais il avait perdu la raison au moment où il a été libéré.
Et qu'est devenu Wu Ruikai? Alors on rappelle cet étudiant qui tient tête au cacique du pouvoir.
À Li Peng. Il tient tête dans cette discussion, c'est hallucinant.
Hallucinant.
Parce que lui-même sort de l'hôpital où il était à cause de la grève de la faim, il était tombé dans les pommes à plusieurs reprises, donc il arrive à l'Assemblée nationale et il dit à Li Peng, arrête tes conneries, quoi, tu sais très bien que c'est pas ça qu'on demande. C'est incroyable. Donc il a fui, il est arrivé à Paris dès la fin du mois de juin 89, et il a participé à ceux qui ont créé la première Fédération pour la démocratie en Chine. Aujourd'hui encore, il sillonne le monde et il se bat toujours pour la démocratie en Chine.
Alors, on se souvient évidemment de l'émotion internationale suscitée par ces événements dramatiques. On va écouter la réaction de celui qui était le président de la France à cette époque, François Mitterrand.
Un régime qui, pour survivre, doit tirer sur la jeunesse qu'il a formée, et qui se dresse contre lui au nom de la liberté, ce régime n'a pas d'avenir. Et je poursuivais en en exprimant ma désapprobation à l'égard de méthodes de violence, en souhaitant que le dialogue enfin se réinstaure.
Quel a été le rôle de la France dans l'exfiltration des militants, opération baptisée Yellow Bird?
Ah, la France a eu un rôle très important. Bizarrement, c'est parce que les États-Unis ont été trop, disons, tatillons. Donc, ils ont hésité avant de donner des visas, etc. Alors que les Français, le consulat de France à Canton, le consulat de France à Hong Kong, ont tout de suite commencé à donner des visas aux manifestants pour se réfugier en France. Et ça s'est fait très rapidement. Et à Canton, ils sont entrés en contact avec les mafias, parce que ce sont les mafias qui ont exfiltré les manifestants par des bateaux de pêche, enfin par toutes sortes de méthodes possibles et imaginables. Et Tsai Chongo a fait partie de ces exfiltrés. Il a même nagé en partie pour arriver sur les rives de Hong Kong et arriver à la liberté.
Racontez-nous cela, Tsai Chongo, cette exfiltration.
Oh, je suis retourné dans ma ville, Latal, à Wuhan. Oui. Quelques jours plus tard, j'étais informé pratiquement par un responsable de la police qu'on a décidé de me arrêter. Donc, je prends fui et je suis arrivé juste en face de Shenzhen. Je me suis caché pendant pratiquement une dizaine de jours à Guangdong. Tous les jours, on changeait de logement, on mangeait dans la rue, dans le restaurant. J'ai écouté les conversations dans le restaurant. Tout le monde condamnait le massacre. Donc, la mafia aussi était indignée par le massacre. Donc, c'est pas... après, j'ai discuté avec eux, il m'a dit, on vous aide, on vous sauve, c'est pas pour l'argent. Hein. On ne peut pas accepter tout ça. Voilà.
Marie Holzmann, la répression entamée en 1989, s'est-elle jamais relâchée en Chine? Aujourd'hui, on en est où?
Non, ça c'est quelque chose à quoi on ne pense pas ici en Occident. Mais encore à ce jour, des gens qui voudraient commémorer Tiananmen au moment du 4 juin savent très bien que c'est absolument impossible. Tous les ans, il y a des courageux qui l'ont fait, et tous les ans, il y a eu des arrestations. Une des plus spectaculaires a été l'arrestation de Huang Qi, qui a voulu commémorer à la fin des années 90 en allumant des bougies et en demandant à tout le monde d'allumer une bougie à sa fenêtre. À cause de ça, il a fait 4 ans de prison. Mais évidemment, plus dramatique, c'est Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, tous les ans, a écrit un poème à la mémoire de Tiananmen en 1990, 91, etc.
Paix, hein, je rappelle.
Et ça a été très traduit en français sous le titre « Les élégies de Tiananmen » et il a été arrêté en 2008, condamné en 2009 à 11 ans de prison et là, il a eu un destin tragique puisqu'il est mort en captivité en juillet. Mais tout ça, ce sont les conséquences de Tiananmen. C'est parce que lui a pris la mémoire de Tiananmen comme sa mission politique, historique, presque mystique.
Merci infiniment Marie Holzmann pour tous ces éclairages donc sur cette page d'histoire contemporaine et dramatique, les massacres de la place Tiananmen. Et merci infiniment à vous, Tsai Chongo, pour avoir témoigné. Vous êtes là au moment où nous parlons, à Hong Kong. Merci infiniment. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Des affaires sensibles aujourd'hui, le massacre de Tiananmen, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons les années SIDA et plus particulièrement l'histoire d'ACT UP.